Africa numéro 1.
Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot, présentée par Hakim Djellouat sur Africa numéro 1.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, nous sommes le lundi 26 mars 2018 et il est 20h21, donc à Paris. C'est l'heure de votre émission sportive, l'unique sur la radio africaine. On va parler de football, on va parler de football sans langue de bois, toujours avec la bonne humeur. À mes côtés, eh bien, pour m'accompagner, Christian Chango.
Bonsoir Hakim, bonsoir à tous sur le plateau, bis à Hélène à la réalisation et un coucou à tous nos auditeurs.
Willy dort que nous, toujours sur son 31, le numéro 10 de cette émission. Comment ça va Willy?
Bien, très bien, tranquille, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Hélène.
Et il a répondu.
Bonsoir invité.
Bonsoir Hélène, bisous également à la réalisation de cette émission. Pour cette énième émission de l'année 2018, nous avons eh bien, à nos côtés l'honneur de recevoir Mouniru Daouda, que l'on avait reçu déjà il y a quelques temps sur notre plateau pour parler d'un tournoi de football pas comme les autres. C'est cette édition 2018 dont on va parler, un tournoi qui s'appelle le TIC. Il va nous en dire un petit peu plus dans quelques instants et qui met à l'honneur justement les jeunes joueurs de football africains de divers centres de formation de football sur le continent. Mouniru Daouda, bienvenue.
Merci Hakim et merci vraiment pour l'invitation.
Avec grand plaisir. On parlera également, nous reviendrons sur un événement footballistique hein, avec des stars et des légendes du football africain aussi, en partenariat avec Africa numéro 1, la date du 19 mai 2018. Notez-la bien, ça sera à Montreuil au stade Louis Lumière et c'est le tournoi des légendes en partenariat avec la radio africaine, avec le Mali, la Guinée-Bissau, les Black Stars, le Togo qui est le pays organisateur. Nous aurons eh bien, pour en parler par téléphone en deuxième partie d'émission, Antoine Aï Ajavon qui nous expliquera un petit peu plus hein, les objectif de ce tournoi, Willy Dorkenou.
Oui, c'est un tournoi qu'on a l'habitude de faire, nous des anciens du football togolais. Donc cette année, on a voulu inviter d'autres équipes pour venir faire la fête du football africain avec nous.
Et on va en parler également, ce sont les résultats des matchs amicaux des sélections africaines en ce mois de mars 2018. Si certaines équipes nationales du continent préparent la suite des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019, d'autres comme les Égyptiens, les Marocains, le Nigeria, également le Sénégal ou la Tunisie, sont en pleine préparation pour le Mondial 2018 en Russie. On verra eh bien, match par match hein, ce qui s'est passé, Christian Chango, notamment avec des matchs intéressants, notamment avec cette sélection de Madagascar qui vous a surpris ou éventuellement celle du Togo.
Oui Hakim, hein, c'est ça, il y a eu donc, plusieurs matchs là, amicaux là, durant cette trêve internationale et on va en parler dans le détail, mais oui, quelques petites surprises en termes de jeu, mais on va en parler dans le détail tout à l'heure.
Allez, place tout de suite à ce premier jingle pour la première partie de cette émission.
Les différents championnats africains sur Africa numéro 1.
Allez, on en a parlé justement dans ce sommaire. Il est avec nous, Mouniru Daouda, pour nous parler de son tournoi. On le rappelle, donc une édition 2018 qui s'annonce bel et bien, intéressante, puisqu'on a peut-être des nouvelles académies qui se sont inscrites sur ce tournoi et qui ont gagné leur place. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce que ce tournoi, Mouniru Daouda, dans un premier temps, et quelles sont les équipes justement qui vont y participer sur le continent?
Oui, Hakim, comme vous le savez, donc chaque année, on organise le tournoi international des centres de formation pour pouvoir permettre, bien sûr, de mettre en vitrine tous les jeunes du continent. Vous savez qu'on est à la 8e édition et l'année dernière, la finale avait eu lieu entre le Rising Star du Ghana et l'équipe de l'Étoile du Mandé. Donc on a eu une très très belle finale l'année dernière et vous savez que l'objectif de ce tournoi c'est aussi de promouvoir la jeunesse africaine et leur permettre pourquoi pas de venir montrer un peu leur talent sur l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire ici, pour éventuellement avoir une carrière. C'est pour ça qu'on fait aussi appel à des recruteurs, les clubs seront présents. Donc concernant donc les équipes, comme vous avez dit tout à l'heure, ce que nous faisons au préalable c'est qu'on fait un tour préliminaire au Bénin pour permettre vraiment de dégager les trois meilleures équipes béninoises pour participer à ce tournoi. Et ce tour préliminaire avait lieu au mois de janvier qui a permis de dégager trois équipes qui sont les trois meilleures équipes donc, du Bénin, qui sont CFES et qui sont donc l'Académie ASPA et le centre de formation donc, de Michael Poté.
Justement, on a un joueur hein, qui a fait partie de cette académie, le CFS, du côté du Bénin. Il était avec nous, il a quitté l'académie il y a 2 ans, hein, c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Selon les informations que vous nous avez communiquées, c'est Charbel Gomez qui est avec nous par téléphone. Bonsoir Charbel Gomez, comment ça va? Ça va très très bien, heureux de vous accueillir avec nous sur ce plateau de Tout Feu Tout Foot, l'émission sportive africaine et du football africain. Charbel Gomez, comment avez-vous vécu cette expérience dans le cadre de ce tournoi, justement pour en revenir un petit peu à votre expérience? Si nous comprenons bien, donc vous y étiez il y a 2 ans exactement, comment s'est passée cette expérience? Racontez-nous.
Bon, du coup, ça fait 2 ans passé. Moi, j'ai été au tournoi. Le tournoi a été très, très bien passé. On a rencontré le Ghana, qui nous a éliminés en demi-finale. Donc, ça m'a un peu fait mal et tout. Bon, moi, j'ai jamais eu la chance de remporter la Coupe. Ça me touche vraiment énormément. Mmh. C'est un très très bon tournoi. Mmh. Ça fait aussi fait partie du début de ma carrière.
Alors pourquoi avoir voulu choisir cette expérience et pourquoi vous êtes inscrit justement dans le cadre de ce tournoi?
Bon, moi je sais, dans le centre de formation, des fêtes, ils nous ont recrutés et tout. Voilà. Mmh.
Mouniru Daouda, donc plusieurs autres jeunes joueurs hein, ont pris aussi le même chemin que Charbel Gomez.
Oui,
est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le parcours, comment ça se passe, le recrutement déjà au niveau des académies? Est-ce que l'on prend tous les joueurs? Combien de joueurs sont sélectionnés?
Au niveau des académies, vous savez que les académies donc africaines ont une organisation totalement différente des européennes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un centre de formation, souvent, vous avez 3 ou 4 niveaux. Donc, on se retrouve avec, soit vous vous retrouvez avec des U15, et puis après, vous passez sur les U17. Et donc, ces équipes, nous, on leur donne simplement la possibilité, s'ils le souhaitent, de participer à ce tournoi, de former une équipe et de jouer le tour préliminaire en ce qui concerne les équipes du Bénin. Et puis après, au niveau des équipes du continent, nous faisons nous-mêmes notre prospection pour pouvoir leur permettre de participer à ce tournoi, puisque ce tournoi permet, c'est une vitrine en quelque sorte pour l'Afrique.
Mmh. Alors, on le rappelle.
Parce que ça fait venir les recruteurs.
Plusieurs pays, il n'y a pas que le Bénin, il y a également la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous citer les autres pays qui participent justement à ce tournoi et cette édition 2018?
Oui, tout à fait. Donc nous avons, vous l'avez cité, la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier, nous avons le centre de formation d'Olivier Capot qui sera présent, mmh, ainsi que le FC San Pedro qui n'est pas un inconnu sur le continent africain et le doyen peut en témoigner. Nous aurons aussi le Lizzy Sport de Marcel Desailly qui sera présent, donc qui vient du Ghana. Nous aurons aussi les Nigérians, donc 2 équipes nigérianes qui seront présentes. Nous aurons aussi bien sûr les équipes maliennes qui sont présentes, dont les demi-finalistes de l'année dernière, l'Étoile du Mandé, qui je demande vraiment aux gens de venir au stade, puisque cette année ça aura lieu dans la capitale béninoise à Porto Novo. Mmh. Donc un clin d'œil vraiment à cette ville, parce que comme vous le savez, c'est ma ville de naissance. On avait l'habitude de le faire à Cotonou et cette année nous avons décidé avec le gouvernement entre guillemets béninois de vraiment faire ce tournoi dans la capitale et permettre aussi à ces étrangers qui vont venir visiter le pays de voir notre belle capitale.
Alors ça se déroule de quelle date à quelle date exactement? Ça commence début avril, hein, c'est ça?
Donc le tournoi démarre donc le 1er avril et se terminera donc le 9 avril. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut nous joindre pour toutes les personnes qui sont intéressées pour éventuellement participer au tournoi. Ils peuvent passer bien sûr par votre site, on sera directement contacté. Et puis sachez qu'on aura bien sûr les parrains de cet événement qui seront présents, donc Jean-Pierre Papin, Michael Sylvestre, des anciens internationaux français, Jafet Endoram et bien sûr Olivier Capot, sachant que bien sûr le coach Lamine, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais je lui fais un petit coucou, qui est dans l'aventure depuis le début, sera aussi présent pour vraiment honorer ce tournoi comme il en a l'habitude.
Oui, d'or que nous.
Oui, je connais déjà le stade de Porto-Novo, un très très beau stade, une belle pelouse. Donc j'ai déjà participé à un tournoi de jeunes sur ce site, une belle ville déjà. Donc j'ai bien admiré le comportement des Porto-Noviens, comme on les appelle, une belle ville. Donc je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de chance pour que le tournoi se passe bien. Mais déjà le site est fantastique.
Christian Chango, on avait reçu Mouniru Daouda il y a quelques temps. Est-ce que effectivement c'est une bonne chose ce tournoi pour la formation des jeunes, pour justement prendre en expérience, pour effectuer des détections et grandir justement grâce à ces formes de détection qui peuvent, pourquoi pas, peut-être leur ouvrir les portes de l'Europe ou éventuellement des clubs africains et des meilleurs clubs africains?
Oui, c'est un tournoi, c'est une expérience intéressante pour ces jeunes joueurs, déjà d'une, de se confronter à d'autres jeunes aussi pour évaluer le niveau, pour la compétition, c'est intéressant pour eux et puis ça leur fait une visibilité aussi, donc c'est intéressant. Et moi là, je vais reposer la même question que je vous avais posée la dernière fois à Mignon, c'est pour savoir, donc là ça fait plusieurs éditions qui sont réalisées, donc pour savoir par rapport au tournoi des jeunes, est-ce qu'il y en a qui ont pu percer ou il y en a qui ont pu sortir et accéder à des portes plus grandes à la suite de ce tournoi?
Tout à fait, donc comme je vous avais dit les dernières fois, le tournoi était basé sur les U15 et nous avons décidé d'un commun accord depuis 2 ans de pouvoir le ramener sur l'âge donc des U17, parce qu'on a été confronté à d'énormes problèmes. Vous savez que les jeunes ne peuvent pas quitter le territoire. Il y a la loi FIFA. Ouais. Donc la loi
moins
FIFA
ans,
demande à ce que un joueur qui quitte donc le continent, on parle pour parler du continent africain, ne peut quitter le continent définitivement qu'à l'âge de 18 ans. Donc nous avons décidé de rapprocher donc le tournoi sur les U17, ce qui nous permettra de faire une anticipation sur les jeunes qui seront sur leur 17e année et ils pourront faire leur détection à l'étranger, ce qui a été le cas l'année dernière. On a 3 joueurs qui ont été recrutés par le Stade Rennais donc pour aller faire leur détection, et c'est des joueurs qui avaient déjà donc 17 ans. C'est pour ça que maintenant on rentre réellement dans le vif du sujet, parce qu'au préalable, en mettant en évidence des joueurs de 15-16 ans, on n'avait aucune chance d'avoir des joueurs qui peuvent rapidement percer, puisque la loi ne nous permet pas ne permet pas à ces joueurs de pouvoir venir à l'étranger. Déjà, le problème de visa, et puis après, il y a la loi de la FIFA qui interdit à tout joueur. Donc c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, nous avons déjà, comme vous l'avez signalé, il y a le petit Charbel Gomez qui a eu la chance de faire des détections, qui est en bonne voie pour certains clubs. 17 ans, exactement. Donc et c'est en très très bonne voie. Et puis il y a d'autres joueurs donc, qui ont été repérés l'année dernière, qui sont actuellement en cours avec le Stade Rennais et Montpellier.
D'accord, merci.
Par rapport à l'exode justement des joueurs africains vers les continents comme l'Europe, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas?
Vous savez, il y a toujours des gens qui diront que c'est une bonne et mauvaise chose. Personnellement, c'est vrai que les conditions sont forcément meilleurs à l'extérieur lorsque vous venez, parce que vous savez que notre continent aujourd'hui manque réellement d'infrastructures. C'est le gros problème que nous avons, il n'y a pas assez d'infrastructures. Et si nous voulons rivaliser avec les grands comme le Brésil, la France, l'Allemagne ou l'Espagne, nous avons besoin vraiment que nos joueurs, comme le disait tout à l'heure Christian, il faut qu'ils soient confrontés avec les très grands joueurs. Et le joueur, vous savez que la valeur aujourd'hui du joueur africain, le joueur africain est très recherché par tous les clubs aujourd'hui. Et donc, pour moi, l'exode, elle est primordiale pour pouvoir avoir de l'expérience. Par contre, il faut derrière revenir, arriver à l'approche de la fin de carrière. Je trouverais que ça soit normal qu'un joueur africain revienne chez lui pour pouvoir faire profiter de son expérience.
Willy Dorcono, on a vu des agents véreux donc effectivement utiliser la faiblesse de parents qui cèdent leurs enfants pour pouvoir justement se rendre dans des clubs pour des essais à l'étranger. Que dites-vous par rapport à ce phénomène?
le fait qu'ils ont rapproché l'âge, c'est-à-dire qu'ils s'occupent de U17 maintenant, que le joueur est à peu près 18 ans avant de quitter l'Afrique, déjà c'est bon. Parce que moi j'ai remarqué que les Africains, plus ils jouent longtemps en Afrique, plus ils sont bons à l'extérieur. Par expérience, donc les gens comme Abedi Pelé, Roger Mila et tout, ils ont déjà joué en Afrique. Donc il n'y a pas un seul joueur qui a réussi à l'extérieur sans avoir eu beaucoup d'expérience sur le sol africain. Mais ce tournoi-là va permettre aux enfants d'avoir de la compétition internationale, ce qu'on n'en a pas, parce que la plupart de nos centres de formation ne sont pas liés au club. Pourquoi les Ghanéens et les Nigériens réussissent plus? Parce que leurs centres sont liés au club. Donc ils s'entraînent avec les A et donc ils ont de la compétition. Par contre, d'autres sont à la maison dans un centre de formation, il n'a pas de compétition. Donc un joueur doit jouer. Plus un joueur joue, plus il est bon. Donc nos jeunes doivent jouer énormément en Afrique avant de sortir de l'Afrique.
Que disent les autres pays, Mouniru Daouda, que vous touchez, que vous ciblez par rapport justement au centre de formation où sont installés ces centres, comme le Mali, la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y aurait pas effectivement une idée aussi peut-être de projeter ce tournoi-là dans ces pays-là, peut-être sur les années futures?
Oui, bien sûr. Vous savez, depuis 8 ans que nous sommes vraiment dans cette organisation, on a été sollicité aussi bien par le Togo, la Côte d'Ivoire et voire même le Ghana. On nous a sollicité pour l'organiser, bien sûr, dans ces pays. Mais pour organiser ce genre de tournoi, vous savez qu'il faut... Pour maîtriser le terrain, et vous savez qu'en Afrique, rien n'est facile. Donc le Bénin, je le maîtrise, je ne le maîtrise pas forcément à 100%.
On rappelle, vous êtes d'origine béninoise. Hein.
Exactement, donc je le maîtrise comme tout bon béninois. Mais maintenant, emmener le tournoi, le TIC 2F, dans un autre pays, il faudrait réellement que je sois... il me faudrait quand même avoir quelques carapaces.
Ouais. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On en est à la 8e édition, c'est ça?
Oui, c'est ça.
8e édition. Quelles sont les nouveautés cette année, justement, par rapport à cette édition 2018?
Écoutez, les nouveautés, chaque année, on essaie d'innover. Cette année, les nouveautés, c'est que vraiment, on va avoir, comme d'habitude, on aura la chance d'avoir d'expérimenter du ballon. Quelqu'un comme Jean-Pierre Papin, ballon d'or. Nous aurons donc Michael Sylvestre qui vont venir faire profiter en fait de leur expérience, parce que c'est important. Ce genre de tournoi, c'est pas que la partie football. Il faut quand même qu'on soit aussi conscient que ces enfants-là, très peu arriveront à vivre du ballon. Donc, on profite de cette occasion pour demander à des expérimentés comme Jafet Endoram, Jean-Pierre Papin, Michael Sylvestre de venir partager leur expérience en tant que joueur, d'expliquer que le football ne mène pas forcément à tout. Parce que sur 1000, on sait bien combien arriveront à être des professionnels. Donc, c'est ce que nous faisons. Et aujourd'hui, on profite aussi de cette occasion pour permettre à ces enfants de pouvoir découvrir aussi d'autres côtés de cette aventure du tournoi, qui serait de visiter la ville de Porte-Novo. Parce que là, on le fait à Porte-Novo. Ils vont visiter la ville de Porte-Novo et en même temps, leur permettre de les emmener à Cotonou pour les emmener à la mer. Parce que vous savez que j'ai toujours cette anecdote. Vous avez des Maliens qui viennent à Cotonou.
Ils n'ont jamais vu la mer.
N'ont jamais vu la mer. Ouais. Donc, c'est peut-être aussi l'occasion de leur faire découvrir ce genre de choses. Et donc, on en profite. Il n'y a pas que le ballon. C'est vrai qu'on va s'amuser avec le ballon.
Il y a aussi un aspect social.
Il y a l'aspect social sur lequel nous devons leur parler de l'arbitrage. Parler aussi du... L'année dernière, nous avons beaucoup insisté sur le VIH-SIDA. Parce que ce sont des adolescents. Donc, ils approchent. Ils ont déjà la plupart des relations sexuelles, donc il est important aussi qu'on les sensibilise sur ce genre de choses, et on les sensibilise aussi sur la violence sur le terrain, parce que vous avez vu ce qui s'est passé ces derniers temps. Il est important pour nous de les sensibiliser sur ce genre de choses. Le tournoi n'a pas que l'aspect sportif, il faut aussi l'aspect social sur lequel nous devons aussi les sensibiliser.
Alors la charte justement pour participer à ce tournoi, le TIC, rappelez-nous déjà qu'est-ce que le TIC?
Le TIC, donc c'est simple, c'est Tournoi International des Centres de Formation, voilà. TIC 2F.
Vous l'entendez sur Africa numéro 1, il est avec nous Mouniru Daouda. Il y a également Franck Simon qui est arrivé pour rejoindre Mouniru Daouda. Franck Simon, venez à nos côtés pour vous exprimer, puisque je crois que si j'ai bien compris Mouniru, Franck Simon, journaliste chez France Football, donc a aussi une part, donc importante dans ce projet. Ça fait quelques années qu'il vous a rejoint. Il va nous expliquer justement pour quelles raisons avez-vous rejoint cet événement et ce tournoi, ce beau projet.
Bonsoir Hakim, bonsoir à tous. Bah, j'ai rejoint le projet tout simplement parce que d'abord j'ai une passion pour les footballs d'Afrique. Je ne parle jamais du foot africain mais des footballs d'Afrique. J'ai été sensibilisé parce que quand vous êtes sur place, vous voyez le regard des gamins, de ces adolescents, et j'y étais l'an passé, on tombe sous le charme de ces échanges, parce que c'est des pays différents, donc ils viennent à se côtoyer, ils logent au même endroit, donc il y a déjà des passerelles, on échange sur la vie quotidienne, il y avait des fêtes qui ont été organisées, il y a eu des balades sur la plage à Cotonou. Ça m'a beaucoup plu, j'ai vu aussi une dimension humaniste très forte chez les organisateurs, l'organisation qui est portée par Mouniru, mais on a nos amis qui sont là-bas. Et c'est vrai que très rapidement, en fait, je lui ai dit que je souhaitais me mettre.
Vous êtes laissé prendre.
Bah, c'est-à-dire que, bah oui, tout simplement, on a juste envie d'être un des maillons, aussi être auprès de ces ados, être aussi auprès des médias, profiter aussi de cette proximité avec les médias béninois et ceux qui accompagnent leurs délégations respectives. Et donc, je suis plus trop dans le rôle de France Football, journaliste de France Football. Mais... simplement Franck Simon, on va dire un bénévole qui est là auprès de Moon et de toute l'équipe là-bas. Et c'est vraiment avec plaisir qu'on va partir dans quelques jours parce qu'il y a beaucoup à faire sur le terrain. Mmh. Et vraiment, je vous invite à venir faire un tour. Ça sera à Porte Nouveau cette année. Mais moi, ce que j'ai vu sur Cotonou m'a vraiment, vraiment plu.
Qu'est-ce qui vous a pu se marquer, Franck Simon, lors de vos dernières expériences en déplacement là-bas, du côté du continent ?
Bah, c'est que c'est quelque chose de très vrai, si vous voulez. Parce que là, en fait, Mouniru vous a évoqué, et vous-même, vous l'avez fait, il vous a évoqué ce qu'on appelle les recruteurs. En fait, ce sont les envoyés des clubs. Hein. Il y a évidemment quelques agents, mais ce sont des recruteurs qui travaillent pour des clubs. On n'est pas dans un marché aux bestiaux, pardonnez-moi d'utiliser ce terme. On est vraiment avec des gens qui viennent scruter des talents. Et les gamins ne se sentent pas stressés par cet environnement, vous voyez. C'est pas quelque chose qui est là pour les embêter. Les gens sont en tribune, viennent observer les matchs, on échange avec eux. C'est la dimension humaine, c'est cette proximité. Moon, il doit se souvenir, au moment, des demi-finales, il y avait un gardien de but, le petit gardien de l'Étoile du Mandé, qui a été remplacé par ses dirigeants. Moi, je suis gardien de but, vétéran, mais tout de même, j'ai été très touché parce que le gamin avait fait vraiment une très belle partie et il a un dirigeant qui l'a chassé du terrain. J'ai trouvé ça très injuste et Moon m'a vu courir comme ça, descendre des tribunes, aller reconforter le petit. Et au début, l'entraîneur n'a pas compris pourquoi je faisais ça et je m'en suis expliqué. J'ai dit, moi, je viens pas du tout pour interférer dans votre travail, mais vous êtes dans un rôle d'éducateur. Ce sont des enfants qui ont 16 ans, ouais. 17 ans. Ils apprennent la compétition, mais c'est avant tout un jeu. Et là, ce qu'il a fait au petit, c'était dur moralement. J'ai pris le petit, je lui ai réconforté et tout. Je lui ai dit, tu as des qualités quand tu vas rentrer au village, puisque Étoile du Mandé, ils sont basés dans un village, ils ne sont pas Bamako. Continue de travailler, continue d'apprendre. Vraiment, ce que tu as fait, c'est bien. Et c'est des choses comme ça qui vous donnent envie, cette dimension humaniste.
De poursuivre.
Poursuivre et simplement d'être là. Vous n'existez pas, vous êtes là pour partager et donner de votre temps à ces jeunes, c'est ça qui me plaît.
Parlons-en de cette dimension éducative, Christian Chango, Willy Dorkenou, Mouniru Daouda, avec également Franck Simon. L'aspect éducatif, est-ce qu'il est primordial justement sur ce type de projet, Willy Dorkenou, Christian Chango, Mouniru ?
Oui, c'est pas à ce niveau, au niveau de ce projet. Le sport, c'est l'éducation. Le sport englobe beaucoup de choses. On ne peut pas faire du sport sans être discipliné. La discipline, c'est la base. Aucun sportif ne peut... On ne peut pas être indiscipliné et faire du sport. Ça ne peut pas exister. Mmh. Un sportif, il s'auto-discipline même. C'est-à-dire que quand on est sportif, on n'a pas envie, on dort tôt. On ne fume pas, on ne boit pas. Donc c'est intéressant de mettre les enfants dans le sport. En sport, on apprend à perdre, on apprend à gagner, on apprend à tomber, on apprend à se relever. Donc quand quelqu'un qui a fait du sport, c'est pour ça que les anglo-saxons mettent toujours le sport et l'éducation en même temps. C'est pas en grandissant qu'on fait le sport. On fait le sport très tôt parce que c'est une leçon de vie, le sport.
L'aspect éducatif, Mouniru, sur ce projet que vous avez fondé, on le rappelle, la première année, c'était en 2010. Mmh. L'idée est venue bien avant, bien sûr, le temps de mettre en place ce premier tournoi, cette première édition en 2010. L'aspect éducatif a été primordial dans vos objectifs.
Oui, bien sûr, comme le disait donc le doyen, l'aspect éducatif est primordial dans la mesure où vous savez que les enfants aujourd'hui, ils veulent tous devenir des footballeurs. Lorsque vous, à peine ils commencent à jouer à l'âge de 10 ans, on leur dit qu'est-ce que tu veux faire plus
même
tard,
Usain Bolt.
Surtout sur notre continent, ils veulent tous devenir footballeurs. Mais si vous ne leur apprenez pas la façon, quelque part, il faudrait qu'il y ait un cadrage avant de parler du ballon. Donc, tu dois respecter ton adversaire, tu dois respecter tes parents, tu dois l'éducation à la maison déjà, si tu l'as, ça te permettra forcément demain peut-être d'entamer une belle carrière. Vous pouvez le voir vous-même, les meilleurs joueurs aujourd'hui, ceux qui arrivent à durer dans le temps, c'est parce qu'ils sont bien entourés
et disciplinés.
Sont bien disciplinés. Exactement. Donc il n'y a pas de...
Christian, est-ce que vous ressentez la même dimension éducative dans votre club sportif? On le rappelle, vous évoluez du côté de Poissy. C'est important?
Oui, c'est important. Et là, quand j'entends tous les témoignages, je repense à quand j'étais petit et les tournois de foot que j'allais faire. J'ai eu la chance de faire des tournois de foot à l'étranger. Mmh. Et c'est exactement ça, en fait. On n'est pas là que pour le ballon aussi. Il y a tout un travail autour qui est fait. Voilà, comme le disait Mouniro, c'est la possibilité d'aller visiter, de se cultiver aussi en dehors. Et c'est, cet aspect-là est très important. Et au-delà de ça, c'est comme le disait Willy, c'est propre au football, mais propre à tout le sport, tous les sports en général. C'est vraiment l'idée, les valeurs qui sont véhiculées, l'apprentissage, le respect. Il parlait de respect par rapport aux arbitres, le respect de l'adversaire, de l'arbitre, des règles, la cohésion d'équipe. C'est tout un état d'esprit qui permet aux enfants de se structurer. Et ça va au-delà juste de taper dans un ballon, de faire des passes, de pleurer de joie, de pleurer de peine. Donc il y a vraiment tout un aspect éducatif et social qui est important. Et ça, c'est moi, ça me touche d'entendre ça. Et c'est ça le football, le sport, c'est voilà cette idée de partage, de grandir et de se structurer. Et donc tout ça après, comme il a dit Mouniro, il y en a un, on le sait très bien dans le football, il y en a un sur 500, sur 1000 qui va passer
réussir,
professionnel,
hein.
Voilà, qui va réussir. Mais après derrière, qu'est-ce qu'on devient? Est-ce que voilà, on est lâché? Voilà, il y a tout un travail derrière aussi qui est fait pour. Si tu réussis pas dans le football, tu réussiras dans autre chose derrière.
Ouais.
Mais tu peux jouer au football hein, au niveau amateur, pour le plaisir, il n'y a pas de problème. Comme disait Franck, le football, c'est du plaisir. Et vraiment, c'est voilà, des tournois comme ça, des événements comme ça, c'est très important. Et je suis content qu'on puisse le recevoir une fois de plus pour en discuter.
Mmh. Franck Simon, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ce sujet?
Oui, effectivement, je voulais juste donner un exemple très précis. Vous savez, au milieu des années 90, Jean-Marc Guillou à Abidjan avait profité de la SEC pour créer sa structure. Ça a donné les académiciens qui... pour certains, ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec les éléphants en 2015. Et il me souvient qu'à l'époque, quand ils se sont installés à Solbeni, qui était le lieu de vie de la SEC, mais aussi de l'académie, ils avaient bâti des endroits pour héberger les enfants, etc., des dortoirs, il y avait le restaurant et tout. Et Jean-Marc Guillou avait fait quelque chose que je trouvais très intéressant, puisque les enfants étaient scolarisés, ils étaient à l'âge du collège et du lycée, à l'intérieur. Ils vivaient là la semaine, ils partaient le week-end, mais régulièrement, tous les visiteurs qui venaient à Solbeni, quelle que soit la profession, étaient invités à partager ce moment, cette expérience de la vie avec les enfants. On parle de garçons comme les Okora, les Kopabari, les Haruna Dendane, etc. Donc, ils ont eu accès à tout type de profession. Ils ont su ce qu'était la vie. Ils nous posaient. Moi, j'ai eu la chance de faire partie des gens qui ont été à l'époque interrogés par les gamins, que j'ai retrouvés des années après avec des grandes carrières. Et ils nous posaient. Mais vous savez, ils étaient sans complexe. Mais tu gagnes combien? C'est comment ton boulot? Montre-nous. Hein, tu es... Et ça, c'est très important. Ça fait aussi partie de l'éducation, de la culture générale. Mmh. Et aujourd'hui, je suis tout d'accord avec tout ce que vous avez dit, les collègues, dans le sens qu'un enfant, un candidat au football professionnel, il doit être accompagné par l'éducation, par la scolarité. Un truc tout bête.
C'est le cœur du projet hein, des enfants, des jeunes.
Mais regardez, la plupart des joueurs. J'ai croisé encore deux joueurs tout récemment. Mm-hmm. Nikes Dao, l'Ivoirien, l'attaquant qui a signé au Wydad, qui a été prêté au Racing de Casa.
Ouais.
Il est bachelier. Il fait une très belle carrière. Il est international chez les locaux ivoiriens. Il y a quelques jours, le Togolais Kodjo Fodolaba, qui était à la Renaissance de Berkane, dont vous parlez régulièrement, qui est encore qualifié en Coupe de la Confédération. Fodolaba, il est aussi bachelier. Ce sont des garçons, ils ont une tête bien faite, ce sont des passionnés, ils ont aujourd'hui la possibilité de faire du football leur métier. Mais sans l'éducation, qu'est-ce qu'ils seraient? Ils seraient tapés dans un ballon. Ça ne suffit pas. Et je suis heureux d'entendre autour de cette table que chacun insiste sur ce rôle-là du sport, le sport en tant que aussi vecteur d'éducation.
Ouais, il est important le sport vecteur d'éducation et également bien sûr hein, de réussite sociale, on peut le dire, tremplin social aussi pour certains. D'autres également qui réussissent par le biais des études, comme vous l'avez souligné, Franck et tous les amis sur le plateau. On va revenir sur ce projet, messieurs et mesdames qui nous écoutent également. N'hésitez pas à nous contacter 01 55 07 58 00. Adama Sourabier avec nous pour parler aussi des matchs amicaux. On l'a dit tout à l'heure en première partie, on le rappelle, donc des matchs amicaux qui ont eu lieu la semaine dernière et également qui ont lieu cette semaine. On va en parler de cette rencontre, Christian Chango, puisque Adama Sourabier, notre correspondant du Burkina Faso, est avec nous ce soir. Bonsoir Adama Sourabier, ce ne sera pas hola, buenos noches, mais bienvenido a la mejor liga del mundo, mais bon, on va le dire comment on le dit au Burkina Faso. Bienvenue.
Bienvenue à danser.
Comment ça va, Adama?
Oui, bonsoir à tout le plateau.
Bonsoir.
De cette grande émission Tout fait tout foot. Bonsoir à Kim, bonsoir à Loïc Willy.
Bonsoir.
Bonsoir au jeune frère Christian, bonsoir à Hélène. Et bonsoir à l'invité. Aujourd'hui, sport et éducation sont deux facteurs qui vont ensemble. Mm-hmm. Je suis parfaitement d'accord sur l'analyse de l'invité que j'ai écouté attentivement. Aujourd'hui, et le mal que nous avons connu au sein du continent africain, nous avons eu à former des footballeurs professionnels, mais qui n'avaient pas de niveau, donc ils n'ont pas su gérer la suite de leur carrière. Mmh. Et donc, on a vu des passages à vide d'un certain nombre de footballeurs qui étaient des grands sur à travers les stades. Ouais. Mais aujourd'hui, quand vous les retrouvez, ils sont en difficulté, ils ont une vie précaire. Mmh. Et donc, sport et éducation sont deux facteurs qui vont ensemble.
Ouais, deux facteurs qui vont ensemble et deux facteurs importants. On a l'avis de notre correspondant et journaliste de l'Espagne, la Liga, et du Burkina Faso. Burkina Faso, Guinée-Bissau, ça s'est déroulé à Limeil-Brévan, en banlieue parisienne, du côté du Val-de-Marne, tout près de Créteil. Mmh. Le score, Christian Chango, on le rappelle, pour les auditeurs et les auditrices.
Exactement, match entre le Burkina Faso et la Guinée-Bissau. 2-0, victoire du Burkina. Adama pourra nous en parler. Et il joue aussi demain, je ne dis pas n'importe quoi, voilà exactement, il joue demain
Contre le Kosovo. Belle rencontre qui va être intéressante en Europe de l'Est, donc du côté du Kosovo. Burkina Faso, Guinée-Bissau, Adama Sourabier, quelle était l'ambiance avant tout? Parce que c'est un tout petit stade, Limeil-Brévan.
Oui, c'est un tout petit stade, mais n'oubliez pas que nous ne sommes pas sur nos bases. Donc, cela voudrait dire que on a permis aux acteurs. Vous saviez aujourd'hui, presque 80% de ceux qui forment nos équipes nationales pour défendre nos couleurs évoluent dans les championnats européens. Donc, la partie a été une partie bien engagée, avec un petit public, mais chaleureux, et qui ne s'est pas du tout ennuyé. Et puis, on a vu une équipe de la Guinée-Bissau, qui n'est pas une équipe facile à jouer, mais une équipe aussi qui est en train de vouloir se préparer pour les batailles futures sur le continent. Mmh. Donc, une équipe en reconstruction. Mmh. Une équipe du Burkina Faso, effectivement, qui a été troisième lors de la dernière Coupe d'Afrique, qui est passée à côté de la qualif pour le prochain mondial dans 3 mois qui va se jouer en Russie. Mmh. Mais c'est une équipe qui ne baisse pas les bras. Cette équipe, on a vu le sélectionneur Duarte qui a fait appel à du 109. Hein. Il y a pas mal de cadres de nouveaux qui ont retrouvé ce groupe-là. Donc, c'est une équipe qui est toujours bien solide. Et au vu de la qualité et de l'expérience de cette équipe, moi, je peux vous dire que je pensais qu'après l'élimination du Mondial, l'équipe allait s'effondrer. Mais c'est une équipe sur laquelle on peut compter sur elle encore sur les 2 ans à venir.
Ouais, et puis, surtout la préparation aux éliminatoires pour la CAN 2019, Mouniru Daouda, Willy Dorkenou, Christian Chango, Franck, votre avis sur cette rencontre, Burkina Faso qui bat la Guinée-Bissau en match de préparation, messieurs?
J'étais au match, donc je peux vous en parler. Mmh. Et je disais à Christian, je lui écrivais tantôt que l'hymne a été chanté, l'hymne burkinabé a été chanté, en fait, je crois que c'est le Ditanié, ouais, qui a été chanté par le public, puisqu'en fait, il n'y avait pas de bande-son. Mmh. Donc les Bissau-Guinéens ont eu droit à leur hymne.
A cappella.
Et eux, ils ont chanté a cappella, c'était magnifique. Il y avait vraiment, oui, c'est vrai, une ambiance champêtre et tout. Après, c'est vrai que Duarte, il avait pas mis tous ses cadres, il n'avait pas mis tous ses œufs dans le même panier, hein, parce que Bertrand Traoré n'était pas titulaire, Préjus, ouais, Nakouma n'était pas titulaire. Donc on a eu droit à Aristide Bansé et ses maladresses, même s'il a marqué. Mais disons que comment ils ont,
c'était mon ami.
Ouais, mais c'était vraiment intéressant. Mais c'est vrai qu'on attend beaucoup maintenant du match contre le Kosovo qui a battu Madagascar.
Mais on a dit en Europe de l'Est, mais ça sera à Franconville, pardon.
Oui, ouais, c'est à Franconville, en région parisienne. Le Kosovo, c'est intéressant comme opposition. C'est une jeune nation, ouais, et très solide. Donc moi, je pense pour les étalons, c'est quelque chose de bien, quoi, d'être amené à jouer une équipe de l'UEFA. Ouais. Ça peut valoir peut-être aussi des points.
Ouais, ça peut valoir des points effectivement pour le classement. On va se retrouver dans quelques instants, messieurs, pour parler de ce projet avec Mouniru Daouda, le tournoi TIC, tournoi international des académies du côté de l'Afrique. Ça va se dérouler eh bien, du côté du Bénin à Porto Novo avec notre ami Mouniru Daouda. On le rappelle, avec aussi plein de stars, Jean-Pierre Papin, il y aura également Franck Simon là-bas qui donnera des petits conseils aux joueurs africains. Willy Dorkenou toujours avec nous, Christian Chango également pour m'accompagner à la réalisation, Hélène Bizio, il y a Michel Colani qui nous a appelé là, on va le prendre dans quelques instants, on lui fait un petit coucou et on se retrouve juste après cette page commerciale. Et également un grand coucou au coach Lamine Badiane avec qui on a passé le flambeau, je l'embrasse bien fort, il nous écoute.
Les différents championnats africains sur Africa numéro 1.
C'est tout feu tout foot, il est 21h précise, donc toujours sur la première partie de cette émission avec Mouniru Daouda et les académies inscrites pour l'édition 2018. On le rappelle, du côté du Bénin, c'est l'académie Poté, l'ASPA, Cefès, Cassiel Calavi, j'ai bien
c'est
prononcé,
bien ça, ouais.
Divinité Suprême, oh là là, c'est un beau nom d'académie ça,
ouais.
Planète Foot, du côté de la Côte d'Ivoire, CEAF, le FC San Pedro, Renaissance d'Abouasso, Fola, Power Stars. Du côté du Mali, 4 académies sont inscrites donc sur ce projet. Siba Football Club de Kayes, le FC Mbaraku, Derby Academy, l'étoile de Mandé. Du côté du Nigeria, c'est le Suncel FC. Le Togo Future Stars Agoé, Cameroun Green Stars Academy Sport. Du côté du Congo Brazzaville, c'est Renaissance Olympique. Et du côté de la RD Congo, c'est Adoya Soccer Academy qui a gagné son ticket, Mouniru.
Oui, tout à fait. Donc, qui seront présents avec nous à Porte Nouveau.
À Porte Nouveau. On n'a oublié personne hein, sur l'ensemble des académies.
Non.
Alors, on rappelle les dates exactement.
Donc, c'est du 1er au 9 avril. Donc, à Porte Nouveau, pour tous les spectateurs, on les attend. Voilà, ça sera une grande fête du football, comme chaque année.
Grande fête du football pour les moins de 17 ans, du côté du Bénin. Il y aura également des Ivoiriens, on aura des Maliens. Ça sera une grande fête du football africain pour la jeunesse. Le Nigeria aussi, le Togo, le Cameroun, le Congo Brazza qui sera représenté et la RD Congo. Est-ce qu'on a des académies qui ont postulé et qui n'ont pas réussi à gagner leur ticket?
Oui, il y a des académies, vous savez... On doit choisir 12 académies et pour nous, la sélection est toujours difficile.
Brièvement, les critères de sélection.
Ben, les critères, c'est avec les différents correspondants que nous avons dans les pays. On leur demande d'aller voir déjà les académies, voir comment elles sont structurées. Et après, il y a un rapport qui est fait et je profite de l'occasion pour saluer aussi mes deux associés que sont Roland Obézéon et Rodrigue Guézodier, qui ne cesse de travailler pour nous permettre d'avoir une belle organisation pour ce tournoi. Donc ces gens-là se déplacent, vont voir dans les centres de formation et nous font un rapport et on décide des invitations. Si vous n'êtes pas invité cette année, peut-être une autre année, ça viendra.
Alors on rappelle, comment les académies qui nous écoutent du côté du continent africain et qui sont nombreuses, comment peuvent-elles postuler? Est-ce qu'il y a un dossier à télécharger sur le site internet? Quelle est l'adresse du site internet?
Oui, donc c'est simple, hein, c'est www.tic2f.org. Donc je répète, www.tic2f.org. Et donc, à partir de ce moment, ils peuvent télécharger l'inscription. Ils s'inscrivent déjà, même pour l'année prochaine.
Pour
ça nous permettra d'avoir beaucoup plus de centre.
Et on essaiera de communiquer un peu plus tôt pour l'édition 2019. Pourquoi pas, même placer Christian Chango sur via les réseaux sociaux, via également la page internet de Facebook de Tout Feu Tout Foot. Et bien le dossier à télécharger, en tout cas le lien de ce site internet pour ces académies. On va passer.
Je profite de l'occasion pour vous remercier aussi Africa numéro 1 qui nous accompagne depuis quelques années.
Ouais.
À travers bien sûr le coach, puisque vous-même. Tous les trois à présent ici, parce que Africa numéro 1 ne cesse depuis des années de nous accompagner sur ce projet. Et vous savez que c'est un projet qui nous tient tous à cœur, surtout lorsqu'il s'agit de la jeunesse africaine.
Ouais, c'est important de le souligner. On le rappelle, donc c'est à partir du 2 avril, c'est bien ça.
C'est ça, le 1er avril, les équipes sont là. Et donc tout commence le 1er avril.
Jusqu'au 9 pour les finales.
Donc, on tous le 9.
Alors donc on le rappelle, c'est noté. Franck, peut-être voulait ajouter quelque chose.
Et le tirage au sort n'est pas encore fait. C'est important de le préciser. Le tirage au sort sera fait en fait avec la présence de leurs représentants. Donc normalement c'est le premier. Tout commence le premier avec un tirage au sort.
Donc c'est comme un vrai tournoi, comme une canne.
Et puis vous savez c'est comme une formule championnat.
Ouais.
Vous pouvez très bien avoir un résultat négatif au début et puis vous pouvez vous refaire. Et je voulais juste, je ne sais pas si Mouniru m'autorisera à citer ça. Malheureusement, il y a eu l'année passée, il y avait des représentants qui sont venus du Cameroun, c'est très loin.
Ouais.
Malheureusement, pour des raisons qui leur appartiennent, ils ont eu un souci. Ils n'ont pas pu arriver avec toutes leurs troupes. Et vous voyez qu'il y a eu une académie béninoise. Je pense qu'on peut les citer.
Oui, ouais. Alodo Sport.
Voilà, vraiment, on les salue. Et ils ont mis à disposition quelques joueurs pour permettre aux Camerounais de vivre ce tournoi, super. De ne pas être laissés toute cette semaine-là. C'était vraiment magnifique de voir les jeunes.
Ouais.
Vous voyez, le football, c'est ça, hein, cette dimension universelle.
Ouais, cette dimension
les jeunes béninois avec les jeunes Camerounais, ils ont joué ensemble. Ils nous ont proposé un joli football. Moon, je pense que tu te souviens. Bon, même si leur résultat n'était pas pris en considération parce que voilà, c'était un mix.
Ils ont quand même participé.
Mais ils ont participé, ils étaient heureux et tout. Ils avaient un super avant-centre, ils avaient un super gardien et ils ont laissé un très bon souvenir. Et c'est ça aussi l'esprit, vous voyez, du tournoi. C'est aussi des festivités, du jeu, du plaisir. Comme disait Christian, c'est tout ça, c'est toutes ces valeurs positives. Ouais. Le sport et le football, c'est ça. C'est pas de se taper dessus, au contraire, c'est d'échanger, de jouer. Et puis bon, après, il y a une compétition. Ouais. Que le meilleur gagne.
Vous l'avez bien dit et on vous remercie d'avoir été avec nous. Franck, Mouniru, Daouda, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Et on vous retrouve pourquoi pas après le tournoi. Sur l'émission Tout Feu Tout Foot, dans l'émission Tout Feu Tout Foot avec toute l'équipe.
Ça sera avec un grand plaisir.
Voilà, vous êtes les bienvenus, messieurs. On va passer à l'actualité du football africain. On l'a dit avec les matchs amicaux qui ont eu lieu. Christian Chango, avec ces matchs qui ont commencé le mercredi 21 mars 2018.
Exact, Akima. Donc là, c'est la période de la trêve internationale, donc où toutes nos sélections, nos représentants africains étaient en lice durant la semaine et ça continuera demain. On va donner donc tous les résultats qui ont déjà eu lieu. Donc Togo, Madagascar, match nul 0-0. Zambie, Zimbabwe, 2-2. C'était un tournoi et donc les victoires de Zambienne, 5-4. Afrique du Sud, Angola, 1-2. Victoire de l'Afrique du Sud, 7-6. Le jeudi, Algérie, Tanzanie, 4-1 pour l'Algérie. On en a parlé, le Burkina Faso face à la Guinée-Bissau, 2-0 pour les Burkinabés. Thaïlande, Gabon, 0-0, 4-2. Victoire de la Thaïlande. Serbie-Maroc, le vendredi. Donc là, c'est des équipes qualifiées pour le mondial. Donc c'est match de préparation. Serbie-Maroc, du côté de Turin, ça s'est joué 2-1, victoire du Maroc. Pologne-Nigeria, 1-0 pour le Nigeria. Égypte-Portugal, ça s'est joué du côté de la Suisse, à Zurich. Défaite égyptienne, ou victoire portugaise, 2-1. Sénégal, pardon, Ouzbékistan, 1-0. Tunisie-Iran, 1-0 pour l'équipe tunisienne. Japon-Mali, 1-0 entre le Japon et le Mali. Gambie-République centrafricaine, 1-0 entre les deux équipes. Samedi 24, Togo-Côte d'Ivoire, 2-0. Kenya-Comores, 2-0. Mauritanie-Guinée, victoire de la Mauritanie, 2-0. Botswana-Lesotho, 1-0 pour le Botswana. Madagascar-Kosovo, victoire du Kosovo, 1-0. Ouganda-Sao Tomé-Principe, 3-1 pour l'Ouganda. Zambie-Afrique du Sud, victoire de la Zambie, 2-0. Angola-Zimbabwe, 2-0. Congo-Brazzaville, Guinée-Bissau, 2-0 pour le Congo-Brazzaville. Et hier, s'est joué le Koweït face au Cameroun, victoire du Cameroun, 3-1. Et le Gabon face aux Émirats Arabes Unis, victoire du Gabon, 1-0.
Ah, vous savez tout concernant ces résultats. Un tour de table, messieurs, quel est le score qui vous a le plus marqué, le match, la rencontre qui vous a le plus plu de manière footballistique? Willy, Franck, Mouniru, Christian?
Oui, c'est le match entre Madagascar et Togo, 0-0, parce que je vous l'avais dit ici que les Malgaches étaient au travail depuis longtemps. Parce que quand on prend le Togo-Madagascar, dans le temps, c'était pas un 0-0 qu'on verra. Mais je vous ai averti que les Malgaches étaient au boulot. Donc ouais. Moi, ça me fait plaisir de voir des pays qui sont au travail, qui reviennent sur la surface. Mmh. Des pays comme la Mauritanie, Madagascar, la Centrafrique. Moi, ça me fait plaisir que ça se nivelle au niveau du haut. Mmh. Donc, c'est pourquoi quand je vois le Burkina Faso aujourd'hui, moi, je connaissais très bien par rapport à mon âge, le Burkina et le Togo, comme on disait en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas un match. Maintenant, le Burkina se prétendre être plus fort que le Togo, c'est dû au travail.
Pas de petite nation, messieurs.
Tout est dû au travail.
Pas de petite nation et du boulot. Christian Chango, la rencontre qui vous a le plus marqué?
Il y a plusieurs matchs, mais je vais rejoindre Willy puisque j'ai assisté à cette rencontre entre le Togo et Madagascar. Et j'avais dit la semaine dernière sur ce même plateau, j'espère ne pas assister à une purge. Et j'ai été agréablement surpris par l'équipe de Madagascar. C'est une des premières fois que je les voyais vraiment jouer. Et
Ils auraient dû gagner, ils ont eu les occasions.
C'est ça, ils ont dominé, c'est eux au point.
Ouais. Tu te souviens ce qu'a dit
Claude? Oui, bien sûr.
Hein, il a dit, il méritait de gagner contre nous, donc c'est clair. Hein.
C'est ça, vraiment. Moi, j'ai au point, on va dire, comme on parle un peu en parlant en langage de boxe, c'est le Madagascar qui a gagné. Mais vraiment, surtout dans la prestation, il n'y avait pas photo. Vraiment, j'ai été surpris par la prestation de Madagascar et un peu déçu par les Togolais. Mais je mettrais vraiment en avant la formation de Madagascar qui m'a surpris. Et le doyen Willy... à son honneur, et on en a parlé plusieurs fois, il me dit, tu verras, il y a des équipes qui vont te surprendre qu'il y a 10 ans, elles venaient de commencer, elles prenaient des valises et tout, et que voilà, ça structure, il y a du travail, ça se nivelle vers le haut, et là, sur ce match-là, franchement, c'était plaisant et intéressant à voir la prestation.
C'est un autre match qui m'a surtout surpris, moi, c'était le Portugal Égypte, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une belle confrontation. Et je crois qu'aujourd'hui, je dirais un des favoris au niveau
du mondial.
Au niveau équipe africaine qui irait le plus loin. Mais je pense que l'Égypte va créer des surprises parce que j'ai vu l'Égypte jouer, j'étais très très surpris. Et je pense qu'on a une belle équipe égyptienne. Ah. Je ne sais pas si vous partagez mon avis.
Retour des pharaons, messieurs.
Oui. Pour moi, personnellement,
oui, mais et les pharaons, on les a vite oubliés. Pourquoi? Parce qu'ils ont participé à la Coupe du Monde 90. Mais c'est le parcours et vraiment flamboyant du Cameroun qui a fait que les gens n'ont pas pensé à l'Égypte. Ouais. L'Égypte dans le groupe était la Hollande, la vraie Hollande. Hein, je ne parle pas de la Hollande de maintenant. Donc on voit leur parcours, mais l'Égypte est la mère du football africain, ils seront toujours là.
Ouais, on le rappelle, un septuple champion d'Afrique. Franck Simon.
Oui, je voulais juste corroborer ce que disaient Christian et le doyen par rapport à Madagascar. Il y a un Français sur le banc qui s'appelle Nicolas Dupuis. Ils attendent des renforts intéressants. Ils attendent des malgaches d'origine réunionnaise ou des réunionnais d'origine malgache, comme le gardien Zachary Boucher qui est à Auxerre, à Jorc qui joue au Clermont Foot, et puis quelqu'un comme Ronny Rodelin qu'on connaît tous, qui lui aussi est réunionnais mais qui a peut-être des origines malgaches. Vous imaginez un peu le potentiel que pourraient avoir les Baréa. Après, moi, pour le match, j'ai envie de dire bravo à la Mauritanie, les Morabitoun, qui ont battu la Guinée avec son nouveau sélectionneur, le Belge Paul Putt. Vous avez eu l'occasion d'en parler il y a quelques jours. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment un résultat qui vient réconforter le public mauritanien après un chan très compliqué pour les Morabitoun locaux. Et qui vient aussi dans la foulée des résultats des clubs que sont Concorde et le FC Nouadhibou qui ont été des animateurs des tours précédents Coupe d'Afrique. Et je voulais juste terminer sur les rencontres. J'étais hier, parce qu'on a dit que le match était samedi, mais Congo Brazza contre Guinée-Bissau, c'était hier à 16h à Mantes. J'étais présent avec Thibi Bifouma, qui avait dit qu'il quittait l'équipe nationale, qui finalement a été présent. Il a été passeur et buteur. Moi, j'ai envie de, non pas de dire bravo au Congo, même s'ils ont on doit les féliciter. Bravo au Djourtou de Guinée-Bissau. On les avait tous découverts au Gabon, vous vous souvenez, il y a un an à peu près. C'est leur première CAN. Ils sont bons collectivement, mais ils ont un problème, c'est de marquer des buts. Ouais. Bon, je pense qu'ils sont en chasse de trouver un vrai buteur. Mmh. Mais il y a un joli football qu'on a vu contre le Burkina et contre le Congo.
Merci pour cette, eh bien, cette analyse, Franck. Plaisir de vous retrouver ici. En tout cas, on vous remercie, Mouniru, Franck, d'avoir été à nos côtés. On va accueillir les invités qui nous attendent juste derrière le plateau. Vous êtes les bienvenus ici. Et on vous souhaite surtout un beau tournoi. On le rappelle, le TIC 2018, à partir du 1er avril, ça sera le tirage au sort, et qui aura lieu jusqu'au 9 avril. La finale se déroulera le 9 avril. Avril, du côté de Porto Novo au Bénin.
Ouais.
Merci Mouniru d'avoir été à nos côtés et on vous souhaite vraiment un bon tournoi et on se tient eh bien, au jus pour toutes ces informations, tous les biscuits que vous nous apporterez pour, à l'issue de cet événement.
Vous inquiétez pas, je serai de retour comme d'habitude.
Et bonne chance.
Merci beaucoup.
Merci.
Et à très vite. Merci beaucoup. On se retrouve très très vite pour cette actualité. On va demander peut-être à Adama Sourabier. On va revenir dans quelques instants avec le jingle des championnats africains.
Les différents championnats africains sur Africa numéro 1.
Adama Sourabier, votre avis sur l'ensemble des rencontres. Vous vouliez parler de la Côte d'Ivoire, justement ce match, sans faire de transition. Le Togo, Côte d'Ivoire à Beauvais, le match nul, c'était samedi 24 mars 2018, Adama Sourabier.
Oui, effectivement, j'ai pas eu l'occasion de suivre d'autres matchs. Les deux matchs que j'ai pu suivre, celui du Burkina Faso et celui du Togo et de la Côte d'Ivoire à Beauvais, et a été un match plaisant. Je m'attendais pas à un tel niveau. Quand on parle des matchs amicaux du côté de l'Afrique, je pensais que voilà, les deux pays de l'Afrique de l'Ouest allaient venir un peu en touriste ou en vacances. Mais non, on a vu deux belles équipes qui ont produit du beau football. Et chaque équipe a eu ses temps forts. Les premières 35 minutes, la Côte d'Ivoire, qui est une jeune équipe qui est en train de se reconstruire, a fait un bon travail, a dominé le jeu. Et notamment, son milieu de terrain a beaucoup bossé à travers série. Et les Togolais se sont fait surprendre en encaissant deux buts à la première période. Mais c'était de mal connaître la réaction des éperviers du Togo.
Oui.
Notamment, je peux saluer le professionnalisme de Adebayor, qui est toujours considéré comme l'un des grands joueurs du continent africain. Moi, j'ai été séduit par sa manière de défendre, sa manière d'attaquer, de provoquer. Et franchement, un bon match. Et les Togolais sont revenus au score à travers Haïté, le Fulham, qui les Togolais n'ont pas baissé les bras. Après avoir été menés 2-0, ils sont revenus à contrôler la deuxième période de la rencontre et en revenant au score. Mmh. Et donc, je peux vous dire que le public qui avait fait le déplacement ne s'est pas du tout ennuyé et je ne m'attendais pas à un tel niveau pour cette rencontre. Moi, je suis parti satisfait.
Ouais.
Et quand je regarde l'équipe du Togo où on avait enterré très vite il y a un an et demi avec tous les problèmes que le Togo avait connus, mm-hmm. ce Togo que j'ai vu le dimanche...
Togo avec un autre visage.
Voilà, ouais. Voilà un autre visage. Et je pense que Claude Leroy est en train de faire un très bon travail. Mmh. Et moi, je peux vous dire qu'il y a de la matière au sein de cette équipe. Aussi, du côté de la Côte d'Ivoire, une équipe qui a été rajeunie. Mmh. Mais une équipe qui est arrivée après son élimination du Mondial à se dire « Non, il ne faut pas que nous baissons le bras. Il faut que nous travaillons pour reconstruire une nouvelle équipe. Mmh. » J'ai vu qu'il y avait 3 ou 4 anciens au sein de ce groupe. Ouais. Mais une équipe qui va faire parler dans le futur si l'organisation ivoirienne, je dis bien si l'organisation du football ivoirien, mm-hmm. met la main dans la pâte pour permettre une stabilité au sein de cette grande nation du football.
Et vous faites bien la transition, Adama Sourabier.
Oui.
Nous avons justement, et merci pour ces éclaircissements et cette analyse, sur la sélection du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo. Celle du Togo, effectivement, qui revient fort, avec notamment pas mal de jeunes joueurs, mais notamment aussi un expérimenté, Adebayor, qu'on attendait tant en sélection, et là qui fait son retour. Et de quelle manière on fait une belle transition, puisque nous avons à nos côtés des représentants du football ivoirien, Nicaise Gbalou, président de l'ASCO Club et président du comité d'organisation de l'AG Extraordinaire, concernant cet événement qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps. On le rappelle, depuis l'échec de la sélection nationale en qualification pour la Coupe du Monde, les clubs ivoiriens sont montés au créneau et ont réclamé le départ du président de la FIF, l'actuel président de la FIF, Augustin Sidi Diallo. Une assemblée justement générale extraordinaire avec ses représentants aujourd'hui sur le plateau de Tout Foot est venue s'exprimer, justement avec notamment également à mes côtés Armand Kourou, président de la conférence des présidents de club et porte-parole du G42. Bonsoir messieurs et merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être venu sur le plateau de Tout Feu Tout Foot sur Africa numéro 1.
Bonsoir.
Bonsoir, merci.
Comment allez-vous?
Très bien.
Très bien.
Très bien, oui.
Alors les résultats, les matchs concernant cette sélection ivoirienne, qu'en pensez-vous? Et est-ce que la Côte d'Ivoire est à sa place pour le moment avec ses résultats?
On dit que la Côte d'Ivoire a sa place, je dirais non. Tout à l'heure, vous l'avez vous-même signifié, la Côte d'Ivoire a présenté une équipe en pleine reconstruction. Ce n'est pas l'équipe qu'on a connue, celle-là qui a porté le drapeau ivoirien. Aujourd'hui, c'est des jeunes gens qui ont été appelés. C'est un travail de base qui est en train d'être fait. Et donc, pour nous, ce qu'on observe là, on espère que ça va nous donner de bons résultats.
Mmh. Pour la suite, messieurs?
À sa place, je dirais non, pas du tout, pas du tout. Moi, je pense que il y a de nombreux problèmes au sein de cette sélection. Mm-hmm. Les cadres, tantôt sont sélectionnés, ils fuient. Le cas de Yaya Touré est là. Je pense reconstruction peut-être, mais il n'y a pas beaucoup de lisibilité dans cette histoire.
Alors on explique un petit peu à nos auditrices, nos auditeurs sur la radio Africa numéro 1, on le rappelle. Donc il y a eu il n'y a pas si longtemps, du côté de Zurich, c'était mardi de la semaine dernière, une réunion avec les dirigeants de clubs locaux de la Côte d'Ivoire et une délégation de la Fédération Ivoirienne de football, notamment avec Monsieur Sidi Diallo et l'ensemble des représentants du G42. Déjà, pouvez-vous nous expliquer un petit peu pourquoi avoir organisé et créé un G42 exactement?
Alors, il faut dire que la naissance du GX, moi je préfère cette appellation parce qu'aujourd'hui il ne s'agit plus de 42 clubs. C'est un G en mouvement. Donc j'aime bien l'appellation GX parce qu'aujourd'hui nous sommes au-delà des 42. Mais au moment où le 29 décembre on saisissait la fédération, j'allais dire le comité exécutif, effectivement il y avait 42 clubs qui avaient mené cette action. Aujourd'hui les choses ont évolué. Alors pour bien comprendre ces choses-là, il faut donner la genèse. Vous savez, nous sommes dans un environnement difficile pour les clubs, pour le football j'allais dire. Et donc à un moment donné, les clubs ont dit bon écoutez, il faut quand même essayer d'arrêter, de stopper ce qui se passe et puis réfléchir autrement. Donc nous avons décidé de réfléchir autrement. Malheureusement, quand tu décides de faire ainsi, on trouve toujours que tu fais une révolte, tout cela. Mais nous avons décidé de réfléchir autrement parce qu'aujourd'hui, nous pensons que notre football peut être organisé autrement. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est ce qui a motivé cela. Mais c'est des problèmes qui durent depuis des années.
Le problème, revenons effectivement, comme on le dit, donc revenons effectivement à la base. La sélection ivoirienne, on le rappelle à nos auditeurs et nos auditrices d'Africa numéro 1, a été éliminé Christian Chango suite à sa rencontre face au Maroc pour la Coupe du Monde, pour la course à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et à l'issue de ça, il y a eu un mouvement de contestation créé.
Ça c'est le côté visible de l'action. Mm-hmm. Peut-être j'allais dire la goutte d'eau qui a peut-être fait déborder le vase. Mais les problèmes ne viennent pas de là. Les problèmes que nous soulevons sont des problèmes structurels, ce sont des problèmes organisationnels, mm-hmm. C'est un problème de gestion que nous soulevons. C'est vrai que c'est arrivé au moment où l'équipe est éliminée, donc c'est en ce moment que tout le monde regarde avec les yeux hagards. Mais nous qui sommes les acteurs premiers, nous savions qu'il y avait problème. même. Et pour nous, bon, c'était, ça allait être pratiquement, j'ai dit, le miracle de franchir cette étape, parce qu'on savait qu'à la base, l'organisation qui avait été mise en place ne pouvait pas permettre d'aller au-delà.
Quels sont les problèmes aujourd'hui vécus au sein de la Côte d'Ivoire, et quels sont les changements que vous souhaitez préconiser, vous souhaitez apporter pour le football ivoirien, pour le bien du football ivoirien, que ce soit au niveau structurel, au niveau des infrastructures, au niveau de l'organisation de la Fédération ivoirienne de football, puisque vous représentez, on le rappelle, les clubs locaux, les clubs de football ivoirien.
Oui, je suis président de la conférence des présidents de clubs, la plus grande et la plus vieille association des clubs de football. Et nous connaissons nos problèmes, vous savez, c'est d'abord des problèmes d'ordre organisationnel. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a brillé par son équipe nationale. Mais après l'équipe nationale, qu'est-ce qu'on a derrière? Pratiquement rien aujourd'hui. Quand il y a une compétition, allez, on se précipite au niveau de la fédération, ramasser les jeunes à gauche, à droite pour aller participer à la compétition. Ce n'est pas ça l'organisation. Aujourd'hui, quand vous avez un pays dont la direction technique nationale ne repose que sur deux cadres du pays, évidemment, vous ne pouvez pas avoir un travail efficace d'organisation. Donc, les problèmes sont d'abord d'ordre organisationnel. Aujourd'hui, il y a la fédération, c'est vrai. Il y a l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais après, derrière, c'est le chaos qui est derrière. Il n'y a pas un planning, il n'y a pas une planification derrière. Il n'y a pas une préparation de base. Il n'y a pas un projet sportif derrière. Ouais.
Aujourd'hui, vous soulevez vraiment de vrais problèmes. Absolument. Sur le terrain, que vous vivez, que Absolument. Vous subissez sur le terrain, donc régulièrement. Donc, d'un point de vue aussi également du championnat. Vous dites d'Orkeno, Christian Chango, peut-être des questions par rapport à cette situation de crise que vivent justement ces clubs locaux du côté de la Côte d'Ivoire, Willy, peut-être ?
Il n'y a pas de questions à poser, mais le problème qui se pose, c'est visible. Nous, et je vois, je l'ai dit la semaine passée, que la Côte d'Ivoire est malade de son football. Et ça se voit, c'est visible. Mais le monsieur dit les raisons pour lesquelles la Côte d'Ivoire est malade. On le comprend. Moi, je l'ai toujours dit. C'est-à-dire qu'un exemple, par exemple, on va chercher un entraîneur qui est en échec en Europe pour une sélection. On n'ira pas loin avec quelqu'un qui est en échec. Donc, il faut savoir. Parce que quand on donne une sélection à quelqu'un, on donne du travail à quelqu'un, la personne doit voir où était le travail avant qu'on lui a confié le travail et où cette personne doit amener l'équipe de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une équipe qui est à 10 pour le ramener à 2. Ça ne sert à rien du tout. Ouais. Donc, ce qui est visible, c'est ce que moi, je vous dis. Mais les problèmes de la Côte d'Ivoire, les problèmes de fond, moi, je ne les connais pas. C'est monsieur à côté de moi qui connaît les problèmes. Mais moi, j'ai toujours dit que la base d'une équipe nationale se pose au niveau du football local.
On va passer une petite page de détente dans quelques instants. On va se retrouver justement avec nos invités, Nikès Gbalou, président de l'ASCO, et également président du comité d'organisation de l'AG Extraordinaire pour le G42, le G10 maintenant, comme vous l'appelez, le GX pardon. Et également Armand Kourou, président de la conférence des présidents de clubs et porte-parole du G42, qui s'est déplacé du côté de la FIFA à Zurich pour justement exprimer leur mécontentement face au football ivoirien actuellement et toutes les conditions qui sont déplorables selon vous. On va en reparler dans quelques instants, juste après une petite page commerciale.
Les différents championnats africains sur Africa numéro 1.
Une trentaine de matchs amicaux concernent les sélections africaines en ce mois de mars 2018. Certaines équipes nationales du continent ont préparé leur rencontre pour les éliminatoires pour la CAN 2019, pardon. Tandis que l'Égypte, le Maroc, on l'a dit tout à l'heure, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie, eux sont en préparation pour la Coupe du Monde en Russie. Programme et résultats, c'était avec nous dans la première partie de cette émission. On a également abordé cette académie inscrite pour le football du continent, les académies, le tournoi des académies du football du continent. C'est le TIC qui se déroulera à partir du 1er avril 2018 jusqu'au 9 avril 2018 avec des grandes légendes du football africain, du football international, pour justement aider les jeunes moins de 17 ans du continent africain et de chaque académie des pays cités, Bénin, Côte d'Ivoire, Nigeria, Mali, Togo, Cameroun, Congo-Brazzaville, RD Congo, a justement participé à un très très beau tournoi. Ça sera le TIC 2018 à suivre bien sûr dans Tout Feu Tout Foot et Africa numéro 1. On revient eh bien, à l'actualité aussi qui secoue le football ivoirien, qui secoue eh bien, tout simplement la FIFA, la Fédération ivoirienne de football, puisqu'il y a quelques jours seulement, une rencontre a eu lieu du côté de Zurich avec la FIFA pour, en tant que médiateur, pour pouvoir essayer de calmer un peu les esprits et voir un petit peu comment on pourrait avancer dans le sens positif eh bien, de la marche pour le football ivoirien, pour pouvoir trouver justement des solutions. Et nous sommes avec... ils ont fait le déplacement jusqu'ici, jusqu'au plateau de Tout Feu Tout Foot. C'est Nikes Gbalou, président de la SCO Club et président du comité d'organisation de la G Extraordinaire, du GX, et Armand Kourou, également président de la conférence des présidents de club, porte-parole du G42. Messieurs, le football ivoirien a-t-il perdu de son talent il y a tout simplement quelques années? On avait vu quelques joueurs aussi bouder un petit peu la sélection. Pour quelles raisons?
Ben écoutez, non, le football ivoirien n'a pas perdu de son talent. Le football ivoirien est malade de son organisation, c'est tout. Et le football ivoirien est malade de l'appareil de gestion de ce football-là. Et c'est ce que nous, en tant que premier acteur, nous avons compris, que nous dénonçons. Les gens, ils peuvent nous faire un faux procès, comme c'est souvent le cas. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, ce football-là regorge de beaucoup de talents mal exploités, mal organisés, mal gérés. Et en plus de cela, le gros des problèmes, c'est que même au niveau financier, les choses sont catastrophiques.
Alors vous pensez qu'il faut vraiment tout remettre à plat, tout changer au sein de la FIFA, la Fédération ivoirienne de football, à ce jour, en tant que représentant des clubs ivoiriens?
Ben, tout dépend du contenu, de ce que vous dites. Hein. Quand vous dites qu'il faut tout remettre à plat, tout dépend du contenu. Nous avons ciblé et cerné bien le mal. Nous savons le mal, il se trouve où?
Il se trouve où exactement?
Nous fonctionnons comme des médecins. Quand le médecin il veut intervenir sur un être humain, il fait son diagnostic.
Où se trouve le mal?
Le mal, c'est le comité exécutif. Il n'est pas caché. C'est l'actuel comité exécutif qui est le mal du football ivoirien. Voilà, faut pas se le cacher. Quand vous avez un comité exécutif qui n'a pas un projet sportif, ben écoutez, vous ne pouvez pas aller quelque part. Le football ivoirien a brillé parce que au plan international, il y a eu des jeunes qui ont été propulsés, mais qui ont été préparés. Et c'est cela. Ceux qui sont arrivés, le comité exécutif actuel qui est arrivé, mais il a travaillé sur des acquis. En réalité, ils n'ont rien fait et ils ont trouvé un travail prêt déjà là. Quand vous parlez des jeunes comme Kolo, de Yaya et autres, mais ils viennent d'où? Ils viennent de la Côte d'Ivoire, les Okora Didier, ils viennent de l'Académie Mimosifcom.
On rappelle Yaya Touré qui a boudé la sélection il y a quelque temps. Est-ce que c'est par rapport à cette situation-là?
Bon,
monsieur,
alors Yaya, il a fait un communiqué sur sa page. Moi, je respecte tout un chacun. Il a dit qu'il a des problèmes de famille, mais cela montre la mauvaise organisation. Ça veut dire, vous voyez, quand tu es président de fédération, quand tu as un staff, quand tu as un comité exécutif, mais on doit même savoir quel est l'état sociologique d'un individu avant de l'appeler en sélection. Est-ce qu'ils ont adressé une convocation en bonne due forme à Yaya? Si tel est le cas, est-ce qu'avant d'adresser cette convocation, il savait dans quel problème il se trouvait? Est-ce qu'il était apte ou on voulait simplement faire un buzz? Moi, je pense qu'on a voulu faire de la pub. Bon, c'est tout naturellement que Yaya ne pouvait pas venir. Vous voyez, c'est plus profond que ça. Et c'est par politesse, le garçon dit qu'il a des problèmes de famille. C'est tout. Mais pertinemment, nous savions que Yaya ne viendrait pas. Parce que aujourd'hui, l'environnement, il est invivable au sein de cette structure, du fait de l'actuel comité exécutif. Aujourd'hui, qui confond tout, qui mélange tout. Voilà. Et c'est ce que nous déplorons. Aujourd'hui, c'est pour cela que nous avons posé ces actes depuis le 29 décembre. La FIFA a anticipé, parce qu'on n'était pas encore à l'étape de la FIFA. La FIFA a voulu anticiper sur les problèmes. Malheureusement, la FIFA se retrouve devant un échec.
Devant un échec, Souleymane, vous voulez vous exprimer justement quant à ce sujet?
Tout à fait. Bonsoir, Kim. Bonsoir, Monsieur Gourou. Bonsoir. Monsieur Nikes, Doyen Willy, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, moi, je suivais cette crise depuis fort longtemps. Mais est-ce que la question que je voudrais poser à Monsieur Gourou et à Monsieur Nikes, vous portez quand même des accusations très graves quand vous parlez de clientélisme et de salaires non payés. le communiqué final que j'ai lu de monsieur, de maître Diallo, parle de clientélisme et de salaire non payé. Est-ce que vous pouvez, vous avez des preuves, vous pouvez nous éclairer sur ces points-là? Parce que vous parlez tantôt tout à l'heure de la gestion de la FIF. Donc, vous avez des choses à reprocher à cette gestion. Donc, éclairer l'opinion.
Vous savez, ces éléments sont des... moi, j'appelle ça les effets collatéraux de la crise. Voilà, les salaires dont on parle, ben c'est les salaires des employés de la Fédération Ivoirienne de Football. C'est de ça qu'il s'agit. Mais d'où vient le problème? La Fédération Ivoirienne de Football, aujourd'hui, court à la faillite, il faut le dire. Parce que quand vous avez une fédération qui a une dette de plus de 3 500 000 euros de dette... on court à la faillite. C'est cela le problème. Aujourd'hui, la rareté des ressources s'explique par la mauvaise gestion en amont. Voilà, de quoi c'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, quand nous regardons, mais écoutez, si vous avez une fédération qui est super endettée, qu'est-ce qu'elle peut faire? Rien du tout. Les clubs qui souffrent pour pouvoir ne serait-ce que bénéficier de la subvention annuelle qui est votée en Assemblée Générale, quand on ne peut pas l'avoir. Mais écoutez, c'est cela la catastrophe qui est en train d'arriver. Et c'est pour ça que nous avons dit à la FIFA qu'il faut arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter l'hémorragie parce que
Qu'avez-vous dit justement à la FIFA à Zurich?
Ce sont les mots que j'emploie. Nous avons dit à la FIFA, il faut arrêter l'hémorragie en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a un comité exécutif qui confond la gestion de la Fédération Ivoirienne de Football avec une gestion personnelle. Les gens aujourd'hui gèrent la fédération comme si géraient l'argent de... l'entreprise encore a des règles de gestion, mais c'est comme si tu gères l'argent de ta poche. Je m'excuse, mais là tu sors, tu as quelques billets encore, qu'ici encore c'est réglementé, qu'il ne faut pas se promener à autant d'argent, mais tu sors, tu rentres dans un magasin, tu prends ta carte, tu fais un achat, on défalque, et puis bon, tu sors, tu n'as même pas besoin d'exiger un reçu quelquefois, puis devant c'est ta dépense. Voilà de quoi il s'agit. Quand on sort des caisses de la Fédération Ivoirienne de Football, plus de 4 500 000 euros sans pièces justificatives. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Quand on prend près de 15 000 euros pour se payer des billets d'avion sans pièces justificatives, voilà les problèmes. Quand on sort 193 000 euros pour donner ça à des journalistes sans pièces justificatives.
C'est avéré, vous avez ces informations?
Ah mais oui,
nous
avons donné tous ces éléments à la FIFA. Et c'est pour cela que la FIFA nous dit.
Et pour quelle raison il a été réélu, Sidi Diallo? Alors c'est là que je...
Ah ben non, mais justement, vous savez, moi je peux dire que les clubs ont été anarchés. Et c'est ça qui nous fait mal. Parce que une fédération fonctionne comment? Il y a le comité exécutif qui assure la gestion, mais le comité exécutif, il est mis en place par les clubs. Et donc, en fin d'année, en fin d'exercice, il faut présenter un bilan, il faut faire l'Assemblée générale extraordinaire, j'allais dire. Mais quand à cette Assemblée, on présente des documents qui semblent anodins, alors que derrière, il y a le rapport du commissaire aux comptes qui dit autre chose et qu'on ne met pas ce rapport à la disposition des clubs, vous voyez, de façon naïve, les gens vont dire oui, parce que vous leur présentez un bilan compact qu'ils ne peuvent pas lire, il n'y a pas de lisibilité, mais ils ne sont pas des financiers.
Armand Kourou, au-delà de ces dénonciations, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui, justement, par rapport à cette situation? Quelles sont les actions que vous proposez pour aller dans le sens du bien du football ivoirien?
Mais
quelles sont les actions que vous proposez?
Le seul mal, si je peux m'exprimer ainsi, qu'on pourrait faire à ce football aujourd'hui, c'est que le président Sidi Diallo et son comité exécutif rendent le tablier. Pour nous, c'est le seul schéma qui puisse aujourd'hui sauver ce football, parce que il n'y a pas d'autres choses. C'est pour cela, quand à cette rencontre de Zurich, quand on nous a proposé de rentrer au comité exécutif, nous avons dit non, on n'est pas allé à Zurich pour négocier des postes. Nous ne sommes pas des politiciens des personnes qui prennent des armes et puis après on dit bon, venez, prenez tel poste, on sépare le gâteau. Mais non, le football ivoirien est malade de son organe. Il faut réorganiser ce football, il faut donner des idées nouvelles, il faut mettre un projet sportif en place, il faut assainir la gestion financière du football ivoirien. Mais pour le faire, c'est pas avec ces personnes.
Jacques Daniel Bernard Anouma, anciennement président de la FIF. Il a récemment été envoyé spécial des présidents de la CAF et de la FIFA.
Nommé médiateur.
Nommé médiateur, exactement. Il a été entendu séparément du groupe. Est-ce qu'il suit cette direction, c'est-à-dire pour le bien du football ivoirien ou pas?
Ben, écoutez, moi, c'est pas à moi d'apprécier, c'est ceux qui l'ont nommé qui apprécieront pour savoir si oui ou non. Mais ce que je peux savoir, il y avait un chronogramme bien établi depuis Abidjan. On savait qu'en venant à Zurich, Jacques Anouma devait être reçu en premier pendant 30 minutes. C'est ce que la FIFA a respecté. Ensuite, elle a reçu le comité exécutif. Alors, j'aime pas bien qu'on dise la Fédération ivoirienne de football, parce que la Fédération, c'est nous. Ouais. Donc, c'est le comité exécutif, qui a été reçu. C'est Sidi Diallo et deux membres de son comité exécutif qui ont été reçus parce que nous avons une crise qui oppose mandat et mandataire. Voilà, donc ils ont été reçus pendant une heure et demie. Et puis après, les mandats ont été reçus pendant plus de trois heures de temps parce que c'est eux qui avaient beaucoup à dire. Et nous avons dit à la FIFA, ça n'est assez. Il faut qu'on arrête l'hémorragie en Côte d'Ivoire. Malheureusement, pour le moment, les gens, on attend le communiqué.
Vous attendez le communiqué, le communiqué officiel. Voilà. Nikez Gbalou, votre sentiment par rapport à tout ça et quelles actions porter justement pour apporter le et remonter un peu le redorer un peu le blason du football ivoirien. Hormis effectivement ce que nous a souligné notre ami Armand Kourou, président de la conférence des présidents de club.
Oui, à mon avis, le mal est connu. Il a dit. Maintenant, il faut qu'on s'organise. Et moi, j'ai été élu dans ce sens-là. En tant que président du comité d'organisation de l'AGE, nous, on était déjà prêts. Le lieu, la date, tout était déjà connu. Mais par respect, on attendait de rencontrer d'abord la FIFA. Et la rencontre a eu lieu. Ça s'est soldé par un échec. Nous attendons le communiqué final. Et nous allons forcément organiser l'AGE.
Que disent les clubs au sein de la Côte d'Ivoire, dans le pays, les joueurs locaux, les clubs, quels sont leurs sentiments, quels sont justement leur avis, leur opinion par rapport à cette situation que vit le football ivoirien, d'une manière générale, pour ne pas dire la FIFA
Non, d'une manière générale, vraiment, les clubs attendent véritablement l'aboutissement de ce scénario-là. Mais il faut dire que les clubs souffrent beaucoup. Les subventions tardent à venir. Deux fois, on finit le championnat, on n'a pas les subventions. Et vraiment, c'est pénible. Et ils attendent beaucoup de notre action et ils attendent beaucoup de la réaction de la FIFA. Dans le sens que nous voulons bien que les choses soient. Et vraiment, tout le monde nous attend. Tout le monde attend la FIFA. Nous serions vraiment heureux que la FIFA demande, par exemple, ou bien diligente un audit pour voir clair dans tout
ça. Un audit neutre, on le rappelle. Hein.
Neutre, ouais, voilà.
C'est important, la partialité pour
pouvoir
faire
dans tout ça, c'est ce que les sportifs ivoiriens attendent.
Christian Chango.
Oui, j'ai deux questions à poser. La première, c'est pourquoi la FIFA tarde à sortir le communiqué. Et ma deuxième question, c'est par rapport au football africain en général, au football ivoirien en particulier, on voit là, il y a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions, il n'y a aucune équipe ivoirienne qui est qualifiée pour la Ligue des Champions. Il y en a deux, donc la SEC et Williamsville, qui sont en cadrage pour la Coupe de la CAF. On a vu, j'étais au Maroc pendant le CHAN, l'équipe de la Côte d'Ivoire, éliminée au premier tour. Donc, quel est le mal du...
Le mal du football plutôt ivoirien, qu'est-ce qui pourrait l'aider à repartir, puisque c'est pas normal qu'il n'y ait pas au moins une équipe ivoirienne en présente en Ligue des Champions.
Armand Kourou, Nikez Gbalou, allez-y.
Alors, c'est tout simple. Hein. Bon, d'abord, je préfère commencer par votre première préoccupation. Pourquoi jusque-là, la FIFA ne publie pas un communiqué? Ah ben oui, justement, vous avez raison de vous poser la question. Nous posons la même question. Parce que quand vous recevez deux blocs qui malheureusement n'ont pas le même poids, parce que nous sommes les mandants, donc nous sommes le gros poids, c'est nous qui élisons les gens. Mais quand vous recevez ces blocs et que vous-même, par votre représentant, Monsieur Véron, à la restitution, vous déclarez que nous constatons l'échec des négociations, mais aussitôt vous publiez un communiqué pour se dire qu'il y a eu échec. Mais l'autre élément qui pour nous est le plus important, pour lequel nous attendons ce communiqué, c'est que nous avons reversé des éléments nouveaux entre les mains de la Fédération internationale, des éléments avérés de malversation. Et la FIFA, par le canal de M. Véron, ils nous ont promis de diligenter dans les 8 semaines un audit des comptes de la fédération pour voir clair. Et pour ne pas que les gens soient évasifs, nous avons donné des repères. Nous avons donné l'année 2012, nous avons donné l'année 2014, nous avons donné l'année 2016. Voilà là où il faut checker sur certains comptes, faire une compulsion et puis regarder qu'est-ce qui n'a pas marché. Comment est-ce qu'on peut sortir autant d'argent sans pièces justificatives pour faire des dépenses. C'est pas des choses que nous disons comme ça. Voilà. C'est écrit noir sur blanc. Quand un commissaire aux comptes ne certifie pas les comptes d'une fédération, mais c'est catastrophique ça. Vous voyez. Donc, pourquoi la FIFA ne publie pas un communiqué? Mais nous aussi, nous interpellons la FIFA. Parce qu'aujourd'hui, le président de la FIFA, il dit quoi? Le slogan, c'est tolérance zéro en matière de corruption. Il a dit ceux qui pensent qu'ils peuvent utiliser le football pour s'enrichir, qu'ils quittent le football.
Ouais.
Et voilà, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un cas. C'est vrai, il y a des résultats. Donc, quelquefois, quand les gens se plaignent, quand on parle, on dit oui, mais on a gagné la CAN, on a gagné la CAN cadet, on a eu tel résultat. C'est vrai, il y a des résultats, mais les résultats sont tenus à partir de quel travail? Les résultats sont revenus à partir d'un travail de décennies en arrière. C'est pas parce qu'on est arrivé là, on a eu un trophée que non. Mais voilà, la preuve aujourd'hui, on n'a pas de trophée, on n'a pas de qualification et tous les problèmes surgissent. Ça veut dire qu'il y a un problème organisationnel, il y a un problème structurel, il y a un problème de gestion et c'est tout ça là qu'il faut regarder. Donc, pour nous, il est important que la FIFA donne son communiqué pour dire ce qui a été dit à Zurich, ce qui a été dû. Parce qu'aujourd'hui, sur le site de la Fédération Ivoirienne de Football, mais voilà, le comité exécutif voilà, fait un communiqué pour dire, bon voilà, ils ont été installés par la FIFA, voilà, la FIFA les a reconnus, ainsi de suite. Mais là n'est pas le problème pour nous, vous voyez. Donc au lieu de laisser chaque camp aller dans tous les sens, il faut qu'il y ait un communiqué clair de la FIFA qui dit, qui dise qu'est-ce qui s'est passé à Zurich, qu'est-ce qui a été arrêté et qu'est-ce qui va être fait. Parce que vous voyez, je suis avec M. Gbalou Raganikez et il fait bien de le dire, les clubs, la majorité, il y a 81 membres actifs. Nous avons produit à la FIFA un acte notarié du GX. Je ne veux pas dire, bon, je dis à la FIFA, on peut le dire. Sur les 81 membres actifs, on a déposé la signature de 47. Sans compter ceux que nous avons en réserve. Pour dire à la FIFA, voilà déjà 47 membres actifs qui disent non. Parmi les 47 actifs, il y a les clubs. Mais il y a l'association des joueurs en activité, il y a l'association des anciens joueurs, il y a l'association des entraîneurs, il y a l'association des arbitres.
Tout le football ivoirien.
Ben voilà, c'est tous les acteurs clés. On a 5 groupement d'intérêt. Il n'y a qu'un seul groupement d'intérêt, c'est l'association des médecins qui n'a pas signé. Mais bon, bref, donc c'est pour dire que la FIFA a intérêt. Parce que nous avons dit à la FIFA pendant les discussions, si nous rentrons à Abidjan, qu'il n'y a pas de communiqué clair et net de tout ce qui se passe, ben nous arrêtons tout. Nous arrêtons tout. Parce que de toute façon, nous sommes les responsables des clubs. Nous sommes les premiers acteurs. C'est nous qui dirions. Il y a le comité exécutif que nous avons mis là. Mais les clubs, c'est nous. C'est nous qui avons les clubs. Et aujourd'hui, quels sont ceux qui souffrent? C'est nous. Nous avons des garçons que nous prenons en charge avec des familles. Ce sont des charges énormes que nous avons. Donc, on n'a pas intérêt qu'il n'ait pas foutu. Mais si on nous contraint, si on nous contraint à ne pas faire rouler le ballon, on va arrêter le ballon. On va l'arrêter jusqu'à ce que les problèmes soient réglés. Ou alors, on
grève dit, si grève du championnat.
On va y arriver. Il va arriver un moment donné où on va arrêter le championnat. Il va arriver un moment donné où on va arrêter toute activité sportive tant que ceux qui sont en face là, ben écoute, ils ne nous rendent pas le mandat qu'on leur a confié. Donc ça, c'est des choses, nous les avons dites à la FIFA par son représentant. Maintenant, nous attendons des
vous
actes
attendez
forts.
Les actes et le communiqué
le
officiel.
Le communiqué qui va retracer les actes forts. Parce que si ce n'est pas fait, mais écoutez, nous allons organiser l'Assemblée générale en respectant. Parce que les gens aujourd'hui, ils se prévalent d'une phrase de M. Véron qui a dit que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous avez posé comme acte, que cela reste dans le cadre des tests de la Fédération ivoirienne de football. Mais justement, nous, c'est parce que nous respectons nos tests que depuis là, nous ne sommes pas allés dans la rue pour raconter ce que nous... Nos tests ont dit quoi? Nos tests disent qu'on a élu un comité exécutif, un président, mais ils ont des assemblées générales qu'ils organisent. Mm-hmm. Mais si les clubs, à un moment donné, estiment qu'il faut s'exprimer sur des situations bien précises, ils demandent une assemblée générale extraordinaire. Et pour le faire, il faut écrire au comité exécutif. Et lorsque mm-hmm. vous écrivez, nos textes à l'article 36.2 dit que lorsque le comité exécutif reçoit cette demande, cette requête des clubs, elle est tenue de
la concret. Secrétaire générale Fatma Samoura, est-ce qu'elle a donné son avis, est-ce qu'elle s'est exprimée sur ce sujet?
Ben, c'est pas elle qui nous a reçus. C'est pas elle qui nous a reçus, mais les correspondances viennent d'elle, donc elle est informée pleinement de ce sujet. Mmh. Mais, et puis, de toute façon, après les discussions, elle a rencontré les deux délégations. Mmh. Elle est venue les saluer amicalement, mais elle n'intervenait pas dans le dossier parce qu'elle a, y a des responsables, il y a des personnes qualifiées pour le faire. Mais elle est au parfum de ce qui se passe. Mmh. Et nous disons que la situation est grave en Côte d'Ivoire.
Merci d'avoir été avec nous sur le plateau. Restez avec nous, on va parler également de football africain avec Antoine Aï Ajavon qui est avec nous pour ce tournoi des légendes. On le rappelle, ça sera le 19 mai 2018, ça sera du côté de Montreuil, Christian Chango, Willy Dorkenou, un tournoi qui mettra en avant, qui fera la lumière des légendes du football ivoirien, du football malien, du football togolais.
Oui, c'est une fête de football du côté des anciens, des vétérans, des anciennes gloires. C'est juste une fête pour qu'on se retrouve. Et tu sais que le sport, c'est la communication. Donc, c'est une fête qu'on faisait avant entre nous, les Togolais. Donc, mm-hmm. Là, on invite d'autres aussi à venir faire la fête ensemble avec nous, mm-hmm. la fête du football.
Mm-hmm. La fête du football en partenariat avec Africa numéro 1, avec Christian Chango, Willy Dorkenou, Lamine Badiane et moi-même Hakim Djellouat avec nous sur ce plateau, toujours à nos côtés Nikes Gbalou, Armand Gourou, président de la conférence des présidents de club, porte-parole du G42. On le rappelle, on venait de parler justement de cette situation qui était un petit peu compliquée, le mécontentement suscité par les clubs ivoiriens. Ils sont venus l'exprimer sur le plateau d'Africa numéro 1 et tout feu tout foot. Antoine Aï Ajavon, bonsoir, comment ça va?
Bonsoir. Ça va. Tout le plateau.
Alors, bonsoir. Racontez-nous un petit peu, Antoine Aï Ajavon. Donc, on en est où là sur le dispositif et les préparatifs justement de ce beau tournoi de la fête du sport africain, de la fête du football africain du côté de Montreuil pour le 19 mai 2018?
Ben écoute, je pense qu'on avance et je dis merci Africa numéro 1, à l'ami Badiane, Willy Dorkenou. Donc, je pense que ça avance. Hein. Donc, les clubs sont connus et donc maintenant on est sur l'organisation et je pense que ça avance comme on veut.
Alors, quelles seront les stars du football africain qui seront présents et que tous les jeunes, toutes les familles, tous les moins jeunes qui pourront venir justement les rencontrer, se faire signer des autographes, faire des photos avec eux. Quels sont les noms déjà qu'on a déjà là sur ce dispositif?
Déjà, comme la Guinée-Conakry, on a fait une Doudou que tout le monde connaît. Mm-hmm. Et les Blastars, comme vous savez, les Blastars, c'est une équipe qui est composée des talents. Les talents africains, il y a plein de joueurs là-bas. Il y a je vais essayer de citer quelques noms.
Oui.
On a Patrick Mboma.
D'accord.
Wiltord. Mm-hmm. Et Piquion aussi, il y a plein de talents là-bas. Il y a Piquion, il y a Wiltord, il y a Patrick Mboma, il y a Mao. Mm. Il y a plein de joueurs là-bas que Willy donc nous connaît bien.
Ouais, je le connais parce que j'ai joué contre eux.
Voilà. Et côté du Togo, on a tous les anciens. On a comme Koffi Fiao, Agassa, Sounou Maouli, Nibombé Daré, Atiou Franck, Boukari Sadou, Afouati. Il y a plein de talents. Ça va être une fête de football des anciens gloires, comme on le dit, voilà.
Ah, impeccable. Écoutez, on note bien cette date, notez-la bien sur vos agendas. C'est le 19 mai 2018.
Ouais, c'est le 19 mai, c'est un samedi.
À partir de 13h30, l'accueil.
À partir de 13h30, voilà.
Ah, du côté du stade Louis Lumière. À côté de à Montreuil.
72 rue, ouais. Voilà, c'est ça. C'était 72 rue Louis Lumière à Montreuil.
Voilà, le stade de football. Donc la fête du football africain en partenariat avec Africa numéro 1.
Ben oui, comme vous le dites, ça va être une grande fête en partenariat avec Africa numéro 1. C'est la première édition. Je pense que.
Il y en aura d'autres.
Voilà.
Ben merci.
Les gens ne vont pas être déçus. Ça va être une fête. Hein, donc on invite tout le monde.
Ouais.
Je pense qu'on aura le temps aussi de parler en plus. Et puis, il y a des joueurs qui vont
qui vont être. Il y aura le portrait, hein, il y aura le portrait de certains sportifs que l'on fera avec Christian et moi-même et Willy et toute l'équipe. Avant effectivement cet événement qui sera effectivement le qui sera la fête du football africain le 19 mai 2018 au stade Louis Lumière, donc à Montreuil. Bien, venez nombreux à partir de 13h30. Merci Antoine Haï à Javon de nous avoir présenté ce beau tournoi des légendes qui se déroulera du côté de la capitale française. Merci beaucoup.
Merci à toute l'équipe. Hein.
Merci Antoine. Quant à moi, eh bien, je vais remercier le plateau, le panel qui est venu nous rencontrer.
Mais merci. J'ai voulu poser une petite question.
Je vous en prie.
Pourquoi il organise ça en France et pas...
Pas sur le continent. On va.
Pas sur le continent.
Pourquoi pas lui proposer de...
C'est le début.
La première, elle sera ici. Voilà. Parce qu'il y a une grande communauté africaine. On a une grande diaspora africaine qui est sur Paris, sur l'île de France. Mais pourquoi pas? C'est une excellente idée. Pourquoi pas la faire en Côte d'Ivoire? En tout cas, le message est passé.
On peut le faire sur le continent parce qu'il y a beaucoup d'anciens ici aussi.
Beaucoup d'anciens aussi.
C'est pour ça qu'on le fait ici, mais on peut voyager pour le faire sur le continent.
Exactement.
On peut voyager pour le faire aussi.
Voilà, tout à fait. Et c'est une excellente idée.
Merci.
En tout cas, les Ivoiriens nous accueilleront chaleureusement.
Sans problème.
L'accueil, il est pris et c'est noté.
Oui.
Comme il est au plateau, s'il connaît aussi les anciens Ivoiriens qui sont en France,
ouais, de communiquer les noms, tout à fait.
Avec Willy Dokinou et puis on verra.
On va faire ça, on va garder les contacts. On va remercier justement le doyen d'avoir été avec nous, monsieur Nikes Gbalou. Merci d'avoir été avec nous, plaisir de vous avoir entendu, plaisir de vous avoir reçu. Merci. Avec grand plaisir. On le rappelle, vous êtes le président de l'asso LASCO Club, président du comité d'organisation de l'AG Extraordinaire du GX et Armand Kourou. Merci d'avoir été avec nous. De vous être déplacé jusqu'ici en France pour pouvoir vous exprimer suite à votre mécontentement par rapport à tout ce qui se passe du côté du football ivoirien sur le continent. Président, on le rappelle, de la conférence des présidents de clubs, porte-parole du G42. Vous étiez à Zurich du côté de la FIFA pour justement vous exprimer. Oui, Dorkono.
J'aimerais bien ajouter que les gens ne pensent pas qu'ils sont en train de faire une révolution. C'est une réaction.
C'est une réaction et un mécontentement que l'on a entendu et on les a effectivement. On a bien compris effectivement ce mécontentement et en tout cas l'opinion pourra se faire aussi un avis. Et l'impartialité, la neutralité, elle est importante dans la radio, quel que soit le média. En tout cas, on est heureux de vous avoir accueilli, vous avoir entendu également. Merci Christian Chango d'avoir préparé cette émission à nos côtés.
Merci, c'était une émission très intéressante, les deux parties. Donc, rendez-vous la semaine prochaine.
Merci à Souleymane Nakindele de nous avoir fait la relation avec nos confrères du côté du continent africain. Et on remercie la réalisation Hélène Bizio pour cette belle émission. On va retrouver juste après Fatou Birama pour une nouvelle émission. Fatou, tu vas où? Et on se retrouve, nous, dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission Tout Feu Tout Foot. En attendant, vous pouvez réécouter le podcast de l'émission sur www.africa1.com ou éventuellement sur la page Facebook de notre émission Tout Feu Tout Foot. Eh bien, n'hésitez pas à rester avec nous sur la radio africaine toute cette semaine. On vous souhaite une excellente semaine sur la radio africaine.
Tout Feu Tout Foot, l'émission 100% foot sur Africa numéro 1.